Belgique, la France des années 1970, avec Franz-Olivier Gisbert et Maxime Tandonnet. Nous allons donc aujourd'hui regarder derrière nous et nous plonger dans les années 70, pompidoliennes, giscardiennes, mais aussi gauchistes, avec Franz-Olivier Gisbert qui publie La Belle Époque, deuxième volume de son Histoire intime de la Ve République, et Maxime Tandonnet, auteur entre autres d'une passionnante histoire des présidents de la République. Commençons par votre titre, Franz-Olivier Gisbert, La Belle Époque. Faut-il en déduire que vous avez la nostalgie de ce passé déjà lointain et que pour vous, c'était mieux avant?
Quand on pose la question comme ça, évidemment, on a envie de dire « bah non, c'était pas mieux avant ». Mais oui, c'était mieux avant, d'un certain point de vue. Parce que c'est très con de dire c'était mieux avant, c'est un truc de vieux con, ça correspond d'ailleurs à mon âge. Donc, a priori, j'ai envie de dire non. Mais oui, c'était quand même mieux avant, je veux dire, au moins sur un point. Et c'est très important. C'est-à-dire, on avait l'impression que l'avenir était ouvert, qu'on pouvait encore faire plein de choses. Et il y avait une forme de griserie, vous voyez, on pouvait presque changer le monde nous appartenait. Et d'ailleurs, il y a un chiffre très simple qui explique tout. Le déclassement de la France depuis. Parce qu'il y a une espèce de dégringolade économique. Hein, on va faire tout simplement penser l'économie, et c'est très important. Le niveau de vie de la France en 1975, après le premier choc pétrolier, le niveau de vie de la France était le cinquième au monde. Hein, aujourd'hui, enfin, disons, il y a un an ou deux, il était tombé au 26e rang, le niveau de vie de la France. Donc vous voyez un peu cette dégringolade. Ça explique beaucoup de choses sur le sentiment de déclin que vivent beaucoup de Français. Je veux dire, dans leur chair, ils voient très bien qu'il s'est passé. Évidemment, le niveau de vie de la France a augmenté depuis. Il a augmenté partout dans le monde. Mais on a augmenté moins vite. Et c'est
ça. On a augmenté quand même.
Ben, on a augmenté quand même. On n'est pas, enfin, c'est idiot. Je sais qu'on entend parfois à la radio des confrères qui nous expliquent qu'on a perdu du niveau de vie. Mais c'est pas vrai. C'est, toutes les études montrent le contraire.
Donc c'est comparatif, si.
Oui, c'est comparatif. Mais si vous voyez, dans le monde, on n'a plus la place qu'on avait, c'est clair. Et on est sur une espèce de pente descendante. Et puis ça a tendance plutôt à s'accélérer. On voit très bien sur tous les plans. Donc je crois que c'est ça le principal problème. Il y a aussi autre chose. C'était l'espèce de foisonnement culturel qui était encore présent. Et ce qui était fascinant, c'était le fait qu'il y a encore une grande partie du monde qui regardait la France sur le plan culturel. Aujourd'hui, les capitales culturelles, mais c'est pas fini tout ça, hein. Ça reviendra. Parce qu'il y a des cycles, Kondratiev en culture aussi, mais c'est vrai que dans le monde, les capitales culturelles, c'est plutôt aujourd'hui New York, et même Londres ou Berlin. Bon, mais je dis pas que la France reviendra pas. Donc je veux dire, je suis pas décliniste, vous voyez, du tout. Je pense juste qu'il faut identifier les problèmes, les régler, et c'est comme ça que la France pourra reprendre un peu, pas seulement des parts de marché, mais reprendre un peu de lustre.
Maxime Tandonnet, avez-vous la nostalgie de ces années 70?
Je pense qu'on était beaucoup plus libre à l'époque. Je pense que les jeunes étaient plus libres. Je me souviens de Coluche, de Thierry Leluron. Je pense que tout cet humour qui existait à l'époque a quasiment disparu aujourd'hui et serait considéré comme intolérable, serait quasiment interdit. Un sketch de Coluche aujourd'hui qui nous faisait rire dans les cours de récréation quand on était lycéen, il serait automatiquement censuré aujourd'hui, la plupart du temps. Je crois aussi que on avait une instruction dans les lycées, dans les collèges. Et je crois que la baisse du niveau est réelle, c'est pas un fantasme. Hein. On avait un lycéen moyen des années 70, il avait entendu parler de Napoléon, il connaissait Voltaire, Montesquieu, il avait une base intellectuelle, une curiosité intellectuelle. J'ai l'impression que malheureusement, et à mon avis c'est le plus grave, ça, c'est ce déclin intellectuel. Il y a le déclin économique, comme vous le disiez très bien, et je partage entièrement, mais je crois que le déclin intellectuel c'est encore plus grave. Et je pense que la baisse du niveau dans les collèges et dans les lycées est absolument dramatique.
Et vous pensez que c'est spécifique à la France ou que c'est un phénomène plus général? Parce que vous disiez, Maxime Tandonnet, qu'un certain humour serait aujourd'hui impossible, interdit, alors même qu'on a des humoristes à flot continu, notamment sur les antennes du service public, mais il y a de plus en plus de choses dont on ne peut pas rire. Il serait difficile même de rire de l'écriture inclusive, alors que Dieu sait si c'est risible. Et puis, vous parliez de Coluche, moi je pense à son interpellation sur les... pour se moquer du français, belge. Maintenant, c'est celles et ceux tout le temps. Donc, on remédie à une certaine invisibilisation des femmes par, justement, chacune et chacun, etc., etc. Mais diriez-vous l'un et l'autre que c'est un phénomène français? Parce qu'après tout, le wokisme, qui n'est pas un mouvement caractérisé par son grand humour, nous vient des États-Unis et se répand dans toute l'Europe. Alors on pourrait dire, au fond, que ce qui va mal en France, du point de vue intellectuel, relève aussi, et paradoxalement, de l'américanisation de la société française, parce que l'Amérique, c'est pas seulement McDonald's, c'est aussi ça. C'est aussi un sectarisme culturel dont nous sommes victimes. Maxime Tandonnet.
Alors je crois que en Europe, les Britanniques sont aussi touchés que nous. Je crois qu'on ne rit plus en Angleterre.
Plus.
On, comment ou plus encore, oui.
En plus encore, oui. Vous diriez.
Oui, oui. Et comme vous le dites exactement, c'est en partie une idéologie qui vient des États-Unis pour l'essentiel. Le wokisme, le fait qu'on ne peut absolument plus rire de tout ce qui touche aux minorités, tout ça et nous vient quand même en grande partie des États-Unis et touche l'ensemble du monde occidental. Mais il me semble que la France est quand même très touchée par ce phénomène. Et finalement, les Lumières françaises, hein, nos grands philosophes, ne permettent pas de résister à ce phénomène. Quand on regarde le déclin, par exemple, de l'enseignement du français. C'est incroyable, la baisse du nombre d'heures enseignées dans les collèges et dans les lycées en français. Ça vient de là aussi, le déclin de l'éducation nationale. C'est qu'on on enseigne plus ce qu'on nous a enseigné à nous et que nous adorions, c'est-à-dire Voltaire, Montesquieu, Rousseau, enfin voilà, toute cette époque.
François-Louis Gisbert.
Alors, le wokisme, c'est peut-être un peu différent de la façon dont il est appréhendé en France, parce qu'il est complètement contradictoire avec l'esprit français. Alors je sais qu'il faut dire l'esprit français, ça n'existe plus. D'ailleurs, il n'y a pas de culture française, paraît-il, non plus. Mais je crois qu'il y a vraiment un esprit français qui est caractérisé par des grands écrivains. Il y a une continuité entre Rabelais, Voltaire, Molière, bien sûr, qui est notre plus grand écrivain, notre plus grand auteur. Et il y a des poches de résistance en France, beaucoup plus, à mon avis, que par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc ce phénomène, je pense qu'il n'a pas encore tout à fait gagné en France, mais c'est vrai qu'il monte, il progresse. Moi, je pensais pas qu'il s'irait aussi vite. Je pensais que c'était tellement contradictoire avec l'esprit français, justement, que ça prendrait pas. Ben, ça prend un peu, et ça vient par les lycées, hein, parce qu'on parle toujours de l'université, on est très focalisé sur l'université, mais déjà, on voit les enfants, puis toutes ces théories, le transgenre qui vient déjà à 5 ans, qu'est-ce que t'as envie d'être, un garçon, une fille, etc. C'est comme aux États-Unis, comme dans la plupart des pays développés.
Oui, alors... Vous parlez d'esprit français, c'est aussi la thèse de Bérénice Levet dans son livre
«
Courage de la dissidence ». Reste que la situation est quand même assez inquiétante, mais nous en viendrons très vite
aux
années 70.
Bien sûr, mais c'est
parce que, par exemple, l'autre jour, Caroline Eliachef était invitée à la mairie du 3e pour parler des enfants, etc. Et l'invitation a été décommandée par la mairie sous la pression d'une association trans, parce qu'elle est accusée de transphobie. Je viens de donner une conférence à Sciences Po qui s'est très bien passée, mais la direction a été inondée de mails dénonçant ma présence. Donc la cancel culture existe aussi dans notre pays. Mais revenons-en aux années 70, où en effet on peut penser qu'on respirerait plus librement. Les années 70, donc c'est la mort du général de Gaulle, et c'est la présidence de Georges Pompidou. Et l'un et l'autre, vous êtes engagé quand même dans une sorte de réhabilitation de Pompidou. Diriez-vous, François-Olivier Gisbert, que Georges Pompidou fut un bon président de la République et même un grand président?
Pas tout à fait. Pour une raison très simple, c'est quand il arrive au pouvoir, il est déjà malade. Hein, c'est ce que je raconte dans le livre, ce que je ne savais pas. Enfin, c'est en enquêtant d'ailleurs, parce qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il avait déjà cette maladie. Il ne voulait pas savoir ce que c'était, parce que bon, il avait une espèce de rejet comme ça, il voulait pas. Mais son fils, enfin tout le monde autour de lui, savait que c'était extrêmement grave et que c'est une maladie qui, quand elle se déclare, devient mortelle assez vite. Bon, et donc il a été empêché. Mais c'est vrai que moi je pense que c'était un grand bonhomme. Il a, avec son travail avec De Gaulle, c'était absolument formidable jusqu'à ça commence à se casser en 1967. Mais c'était vraiment les deux contraires et ça marchait très bien. De Gaulle s'occupait que de la France, lui s'occupait des Français. C'était un couple hallucinant. Enfin,
un bon partage des tâches.
À un moment donné, ça devient un couple infernal. 67, 68, ça éclate. 69, Pompidou participe d'ailleurs au meurtre, à l'assassinat du général, parce qu'il a quand même dit bah voilà, je suis prêt à prendre la suite juste avant le référendum mortel pour le général de Gaulle, et puis avec l'aide de Giscard qui a dit lui qu'il voterait non. Donc Pompidou, pour moi, c'est une grande figure de l'histoire de France, c'est clair, grâce au travail qu'il a fait avec de Gaulle comme Premier ministre. Après, comme président, c'est plus compliqué. Parce que c'est vrai qu'il est empêché, mais je dirais en même temps, il continue ce qu'il a fait, parce que c'est ça qu'il a fait, c'est absolument extraordinaire le travail qu'il a fait, c'est l'industrialisation de la France. Aujourd'hui, on a une désindustrialisation effrayante, puisque nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe avec la Grèce. Bon, ben ça c'est effectivement bon, l'héritage de Pompidou, on
a complètement dilapidé.
C'est un
capitaine d'industrie,
oui, absolument. Mais c'est
Bernard Isambert.
Je suis d'accord, mais c'est d'ailleurs qui était lui-même d'ailleurs un capitaine de l'industrie. Il a joué un rôle très important auprès de Pompidou. Mais ce qu'il a fait sur ce plan, c'est absolument extraordinaire. Alors, c'est vrai que sur d'autres sujets, bon, bah, le pompidouisme a laissé moins de choses. Mais je crois que c'est important. Et puis, je dirais même ce qu'il a fait par rapport à la Grande-Bretagne, faire entrer la Grande-Bretagne dans le marché commun, ça lui était reproché. Au nom du gaullisme, mais ça, c'est, comment dire, une interprétation absolument débile du gaullisme. Je préfère le dire, c'est que De Gaulle, c'est pas une idéologie, le gaullisme. Il n'a jamais prétendu installer les choses. De Gaulle passait son temps à changer d'avis. Et donc, à l'époque où Pompidou l'a fait, vous vous souvenez, c'était l'époque où l'Allemagne allait vraiment vers l'Est, c'était la grande période de l'Ostpolitik avec Willy Brandt, et Pompidou s'est dit, bon, allez, on faut donner un petit coup de l'autre côté. De Gaulle l'aurait peut-être fait à sa place.
Maxime Tandonnet.
Oui, moi je partage complètement cet avis. D'abord, je pense qu'il n'y a pas de président idéal, hein. Il n'y a pas de dirigeant politique idéal. Ils ont tous des qualités et des défauts. Je crois qu'il a bien répondu à ce qu'attendait la France à un moment. D'abord, c'est lui qui a sorti le pays de mai 68, hein, il faut bien le voir. Le général de Gaulle était dépassé à bien des égards.
Enfin, il a bien aidé aussi, hein, quand même.
Oui.
Je trouve quand même il y avait une répartition des tâches, même si... Ça n'a pas été vécu
quand
que...
À Baden-Baden. Non,
ça n'était pas conçu.
Quand
vous êtes
parti à Baden-Baden.
Oui, mais c'était bien.
Il y avait le. Et furieux.
Il y avait le bon policier et le mauvais policier, hein, comme on dit. Et donc, De Gaulle étant le mauvais, mais.
Mais dans le choix de la dissolution du référendum, c'est Pompidou qui a quand même poussé dans le bon sens, quoi. C'est lui qui a eu l'idée. C'est lui qui a considéré qu'il fallait dissoudre l'Assemblée. C'était le meilleur moyen d'en sortir. Et là, je pense qu'il a eu une bonne vision. Je crois que c'était. Moi, je pense que c'était vraiment un bon président. Je pense que déjà, c'était pas quelqu'un d'hyper narcissique, comme on voit aujourd'hui, qui ramène tout à lui. Je crois que il avait un vrai dessein pour la France, France, il aimait son pays. Le développement économique pour lui, c'était une manière de développer la France en réalité. Hein. C'était pas du tout quelqu'un qui se mettait constamment en avant. Il avait une approche très simple de la politique. Il parlait aux gens, il parlait au peuple. Il était proche du peuple dans sa manière de se comporter. Et ça, je crois que c'est très important.
En même temps, il n'était pas très populaire aussi.
Ah non, ça ne veut pas dire qu'il était populaire. Il était un moment quand même,
oui.
En 69, il était très populaire. Je crois que comme le disait Franz, par la suite, évidemment, bon, sa maladie l'a beaucoup, beaucoup desservi. Et à la fin, il s'est braqué sur quelques sujets. Par exemple, il refusait absolument toute mesure de sécurité routière. Ça, c'était plus, il était plus dans l'époque à ce moment-là. Aussi, une autre erreur, à mon avis, c'était le quinquennat. Je crois qu'il voulait absolument le quinquennat.
Oui, mais
jamais trop
pour des raisons personnelles.
Oui, sûrement.
C'était des raisons personnelles.
Sûrement,
il pensait qu'il pourrait pas tenir jusqu'au bout,
oui.
Et donc il se disait, bah je vais me l'appliquer à moi-même, et comme ça, voilà, je partirai plus facilement.
Oui, on sait maintenant que c'est plutôt une erreur, donc.
Bah oui, c'était une énorme erreur, bien sûr.
Oui, voilà. Mais enfin, cette erreur a été commise par ses successeurs.
Ah, mais bien sûr.
Oui,
bien
ça.
Sûr.
Donc, le quinquennat, on est dedans.
Jospin et Giscard qui nous ont mis ça, et Chirac a été obligé de suivre, mais enfin, un peu contraint et forcé, puisqu'il c'est enfin vraiment au départ, c'est une idée de Jospin et de Giscard.
Donc.
Vous bien dites, casser les institutions.
Vous dites l'un et l'autre qu'il a été un très actif pour industrialiser ou mieux industrialiser la France. Il a lancé la France dans de grands projets, Airbus notamment, je crois, enfin, et d'autres encore. Et il y a aussi, et vous le soulignez l'un et l'autre, la trajectoire de Pompidou, parce que il a été premier prix de version grecque au concours général. Il a été non seulement agrégé de lettres classiques, mais il était premier à l'agrégation de lettres classiques. Il a enseigné, ensuite il a travaillé à la Banque Rothschild. Donc c'était un homme de grande culture, qui aimait les arts, qui aimait les paysages. Vous soulignez l'un et l'autre son refus
sur des arbres, hein,
de vouloir abattre les arbres le long des routes sous prétexte de sécurité. Vous citez Maxime Tandonnet, une lettre à Chaban-Delmas qui va dans ce sens, parce que c'est la sauvegarde des arbres plantés au bord des routes est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde d'un milieu humain. Mais d'un autre côté, ce même homme, on lui doit la tour Montparnasse, on lui doit les voies sur berge, on lui doit la destruction des pavillons Baltar, et on lui doit aussi le centre Beaubourg. Il disait que ça permettrait de passer d'une société de loisirs à une société de culture, de tirer la société de la loisirs vers la culture. Maintenant, on peut se poser des questions sur cet héritage-là, me semble-t-il, François-Olivier Gisbert.
Là, vous avez raison. Moi, je ne suis pas du tout sur le centre Beaubourg, parce que j'étais longtemps un habitué, même je ne vis plus à Paris. Mais c'est un endroit que j'ai adoré. Il y avait des expositions absolument extraordinaires, et Maxime est d'accord avec moi, donc je ne suis pas là-dessus. Mais en revanche, très important, bien entendu, vous vous rendez compte ce que serait aujourd'hui le centre de Paris avec les pavillons Baltar rénové, enfin c'était une bêtise absolument monstrueuse. Je parle pas des quais rive gauche, toute cette espèce de zone avec des enfin c'était atroce. Bon, donc c'est sûr qu'il y a, c'est aussi la France de la culture, parce qu'il est très cultivé, mais c'est aussi la France du mauvais goût. Et moi, ce que je trouve le plus intéressant chez Pompidou, c'est peut-être c'est un président qui ne fait absolument pas de com. Le père de Gaulle en faisait un peu, parce qu'il était tellement doué d'ailleurs à la télévision, c'était quand même grand numéro à chaque fois. Pompidou, c'était pas le cas, et je suis fasciné par cette espèce de simplicité. Il faut pas jamais oublier, parce que vous avez fait un très beau portrait de lui, mais il faut voir aussi ses racines, quoi. C'est un petit-fils de paysan. Ils sont devenus, ses parents sont devenus instituteurs. Il vient du fin fond de la France, et c'est la preuve que la promotion sociale à la française, en tout cas sous la Troisième République, ça marchait, puisque et ça, il l'oubliait pas. C'est pour ça aussi qu'il avait tendance à défendre ce système.
Maxime Tandonnet.
Oui, je rajouterais que comment on pourrait imaginer la France sans les autoroutes aujourd'hui. C'est lui qui a lancé le programme d'autoroute et qui l'a largement développé, enfin qui l'a poursuivi, mais avec beaucoup d'intensité. Et puis sur la question de la culture aussi, je voudrais dire qu'il n'a pas réussi à faire tout ce qu'il voulait. Il avait une grande idée, il sentait bien la déliquescence de l'éducation nationale, il avait une grande idée, c'était de rendre le latin obligatoire. Et il insistait beaucoup auprès de son ministre de l'éducation à l'époque.
Une idée qui plaisait à Mitterrand d'ailleurs.
Plaisait à Mitterrand, mais Guichard, qui était son ministre de l'éducation nationale, n'était pas vraiment convaincu, et donc il n'a pas réussi à imposer le latin, ce qui prouve bien aussi qu'un président de la République n'est pas tout puissant, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut.
Un mot quand même sur Beaubourg. Je ne vais pas lâcher le morceau tout de suite. Oui. Je voudrais vous citer une réflexion que je trouve magnifique de Jean Baudrillard. Ah, oui. À quoi bon réconcilier ces monstres urbains, Beaubourg, la Villette, Défense, Opéra Bastille, etc., avec la ville ou le quartier qui les entoure? Ce ne sont pas des monuments, ce sont des monstres. Ils ne témoignent pas de l'intégrité d'une ville, mais de sa désintégration, non de son organicité, mais de sa désorganisation. Ils ne rythment pas la ville et ses échanges, ils sont projetés sur elle comme des objets extraterrestres, comme des engins spatiaux chus d'un désastre obscur. Leur attraction est de l'ordre de la stupéfaction touristique. Je pense que ça vaut aussi pour la pyramide au milieu de la cour carrée du Louvre. Donc voilà. Je verse cette pièce au débat. Moi, j'ai aussi participé à des discussions au centre Beaubourg. J'ai vu des expositions.
Génial. Vous souvenez l'exposition Giacometti? Qu'est-ce que c'était? Mais c'était absolument extraordinaire.
Enfin, mais d'un autre côté, c'est l'art contemporain, et c'est tellement l'art contemporain que Beaubourg devait faire une grande exposition de Sam Safran, et elle a été annulée au dernier moment parce que c'était un peintre trop figuratif. Donc voilà, il y a. Mais alors il y a aussi une autre chose qui est très intéressante. Vous parlez l'un et l'autre. Ce sont les démêlés immédiats de Pompidou avec son premier ministre, notamment autour du thème de la nouvelle société. J'aimerais qu'on y revienne dans cette émission qui aurait pu s'appeler « Je me souviens ». François-Olivier Gisbert.
Pompidou a pris un premier ministre, qui était ce qu'on appelait à l'époque un baron du gaullisme, que De Gaulle adorait. Hein, ça, c'est un point très important. Quand on lit les mémoires, par exemple, de Foccart, on voit, ça revient souvent. Il adore. Il reproche toujours à Chaban-Delmas son côté radical socialiste. Mais il se souvient toujours, le plus jeune général de la résistance. Et De Gaulle avait un faible pour lui. D'ailleurs, on voit la façon dont il en parle. Pompidou le prend parce que, bon, il veut rester dans la tradition gaulliste. Et tout de suite, on voit très bien, parce que Chaban, je crois que c'est lié à la maladie, l'espèce de guerre que Pompidou va mener, parce que dans son cabinet, il y a des personnes comme Pierre Juillet et Marie-France Garraud qui prennent le pouvoir, il faut bien le dire, parce que ils ont un président de plus en plus fatigué, acariâtre, qui souffre, parce qu'il souffre énormément, il se plaint pas, mais bon. Et tout ça se tourne contre Chaban-Delmas qui a des défauts, évidemment. Moi, ce qui m'a toujours frappé, j'ai beaucoup un gros fait pour Chaban-Delmas parce que dans les personnalités politiques que j'ai rencontrées dans ma vie, c'est le seul qui disait jamais du mal des gens. Vous voyez, ah oui. Et c'était d'ailleurs le Canard Enchaîné le surnommait à juste titre Charmant Delmas. Je trouve ça très Delmas. Bien. Oui, parce qu'il y avait un côté charmant. Comment dire? Bon, bah, là, évidemment, il aimait pas trop Chirac parce que Chirac avait tout fait pour le tuer à un moment donné. Mais enfin, même à la fin de sa vie, où j'ai vu, il recommençait à dire du bien de Chirac. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui aimait bien tout le monde. Bon, qui était pas bête du tout. Et il passait pour un imbécile un peu parce que justement, il n'était pas méchant. Et d'ailleurs, les gens pas méchants en politique, ils vont jamais très loin. Vous êtes bien d'accord? Non, je crois que c'est le gros problème de Chaban-Delmas. Mais ce qu'il a payé, surtout avec Pompidou, c'est bon, ce discours sur la nouvelle société et aussi sa désinvolture. Parce que quand même, c'est un discours important et il n'a pas eu l'idée d'en parler
au président.
Quelques jours avant au président. Il lui laisse le papier de son discours plié en quatre. Je ne sais pas trop comment il a... Enfin, c'est ce que Pompidou a raconté, qu'il était plié en quatre. Je ne sais pas trop comment il a fait ça, parce que il y avait quand même plusieurs pages. Et il lui a laissé ça sur son bureau et en partant. Donc du coup, d'ailleurs, Pompidou l'a pas lu. Et puis,
il a découvert,
était très marié parce qu'effectivement, c'était un discours de président.
Maxime Tandonnet.
Oui, moi, je crois que ce qui est important de dire aussi sur cette période, c'est que c'était une période très riche de réformes, le début des années 70, justement, le tandem Pompidou-Chaban-Delmas. Les deux ne s'entendaient pas, c'était deux personnalités complètement différentes, comme le disait Franz. Hein, Pompidou, c'était un homme de dossier, il connaissait tous ses dossiers par cœur, alors qu'il reprochait à Chaban-Delmas d'être lyrique, d'être un politique, de faire de la communication, de soigner son image, de parler beaucoup et de pas faire suffisamment. Mais quand on regarde le bilan de cette période, ce bilan, il est riche. C'est l'époque où on a mis en place le SMIC, par exemple, une réforme sociale très importante, la contractualisation des rapports avec les syndicats. C'est une période où la France a beaucoup bougé. L'industrialisation, on en parlait tout à l'heure, le développement des routes, le développement du téléphone, de l'énergie nucléaire. Tout ça, on le doit à cette époque, en grande partie. C'est une époque où la France est très reconnue dans le monde. Elle fait partie des grandes nations, les grands sommets internationaux. La voix de la France a une importance considérable. Donc c'est une période très riche pour la politique française. La conclusion que j'en tire, c'est que on n'est pas obligé d'avoir un président et un premier ministre qui s'entendent parfaitement, qui sont des copains. Aujourd'hui, les présidents ont tendance à choisir des ministres de confort, des premiers ministres de confort avec qui ils s'entendent bien.
Inexistants,
évidemment. Alors que c'est pas ça, au contraire. La France, elle marche quand il y a un président de la République qui a une vision et quand il y a un premier ministre actif sur le terrain. Et voilà, c'est pas, on cherche pas le confort quand on nomme un premier ministre. On cherche quelqu'un d'efficace.
Alors, vous disiez juste un petit point sur Georges Pompidou. Ce qui m'a toujours frappé, je le disais tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la com. Il y a une histoire qui m'a toujours interpellé, c'est, vous savez, quand il parle de l'affaire de Gabriel Russier, vous vous souvenez de cette affaire?
Bien
où,
sûr.
Bon, cette jeune femme qui s'était suicidée parce qu'elle avait une relation avec un lycéen, elle était professeure, un lycéen dans un lycée de Marseille. Bon, elle s'est suicidée et Pompidou est très ému, on lui pose la question. Il fait une conférence de presse, il savait qu'on lui poserait la question. Hein. Il a même même pas pris la peine de relire le poème de Paul Éluard qu'il va citer. Il le lit de traviole, alors que c'est un hypermnésique. Il aurait suffi qu'il le lise juste avant. Vous voyez? Donc, oui, oui. On imagine la France d'aujourd'hui. Il y aurait une réunion de com. Qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va faire? Etc. Oui. Avec 4-5 conseillers.
Avec des éléments de langage.
Des éléments de langage. Et l'autre, il est dans sa conférence de presse. Il réfléchit un peu. Et puis voilà, il sort un bout de poème qui est pas bon quand on relit. C'est pas, c'était pas le, effectivement, le poème de Paul Éluard.
Oui, c'est un moment très émouvant.
C'est très fort. Alors, c'est très fort.
Mais
aussi.
Alors aussi quand même.
On a tous pleuré, hein, façon qu'ils ont vu ça sur le moment. C'était très très fort. Envoyez.
Mais le malentendu, en effet, avec Chaban Delmas, commence par ce discours sur la nouvelle société. Et vous citez une phrase que je trouve très intéressante de Pompidou, François-Olivier Gisbert, adressée à Perfitte. Vous n'avez pas remarqué que dans ce discours où Chaban parle de société, il ne parle pas une seule fois de la nation et de l'autorité de l'État. On dirait que ces expressions lui écorchent la langue. Or, la France est une nation avant d'être une société. C'est vraiment la grande tradition gaulliste.
Oui. Hein, oui,
mais alors, là, j'en viens quand même à un autre problème. La France est une nation, dit Pompidou, pas seulement une société. Et d'un autre côté, Pompidou est celui qui veut tourner la page des querelles françaises, et notamment la page de la résistance.
De Gaulle aussi. Hein.
Oui, De Gaulle
c'est
aussi.
C'est la tradition du gaullisme. Là, hein.
Oui, ouais. Mais il n'empêche qu'il va assez loin dans ce sens, et c'est l'une des raisons pour lesquelles Pompidou était haï par une partie de la jeunesse gauchiste. Car les gauchistes, notamment les maoïstes, vivaient dans le fantasme d'un nouveau fascisme, d'une nouvelle résistance, fantasme alimenté aussi par la politique du ministre de l'Intérieur, Marcelin, quand même, plutôt répressif, il faut bien le dire. Et vous avez des pages, François-Olivier Gisbert, très dures sur le gauchisme, qui était... malgré tout, l'une des caractéristiques de cette époque. Mais s'éloignait, mais la défaite, si je peux dire, du gauchisme dans les urnes, en tout cas de l'esprit de 68 dans les urnes, avait conduit beaucoup de jeunes gens, etc., à penser que les élections étaient un piège à con. Que c'est pas par là qu'on passerait, évidemment, la révolution, qu'il fallait songer à des solutions plus radicales. Alors, quel est le bilan que vous faites de ces années qui furent à la fois pompidoliennes et gauchistes, François-Olivier Gisbert?
Vous avez raison, c'est une période pendant laquelle le gauchisme a se développé énormément. Alors attention, si on regarde ça du point de vue international, vous avez le même phénomène en Italie, avec les Brigades Rouges qui vont tuer à tour de bras, hein, parce que c'est... Et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, d'une certaine manière, pour la gauche, ce qui va se passer en Italie, c'est qu'il y aura une césure très forte, un grand fossé entre les gauchistes qui tuent, et puis de l'autre côté, la gauche traditionnelle socialiste qui veut pas entendre parler de ces gauchistes-là. D'ailleurs, souvenez-vous, les polémiques qu'il y a eu avec César Battisti, les plus excités contre César Battisti, c'était souvent des socialistes. Hein. Et en France, c'était la complaisance absolue avec quelqu'un qui a avoué tout de suite, dès qu'il a été arrêté, qu'il avait tué plusieurs personnes lui-même. Bon. Et vous aviez également le même phénomène de gauchisme débile, effrayant et assassin en Allemagne. En France, ils ont beaucoup moins tué. Enfin, ça n'était pas du tout... À peu près pas, absolument. Et ce qui est vrai, quand même, c'est qu'il y avait beaucoup d'appels au meurtre. Moi, c'est ça qui me frappe énormément. Alors, ça commence avec Jean-Paul Sartre, d'ailleurs. Jean-Paul Sartre, quand dans la préface au très beau livre de Frantz Fanon, sur les damnés de la Terre, vous vous souvenez, il écrit quand même, il fait... c'est incroyable, cette phrase, d'ailleurs, il faut toujours... L'Européen n'a pas pu se faire homme qu'en fabriquant des esclaves et des monstres. Ça, c'est déjà du pré-wokisme. Et écrit Sartre, il doit donc être puni. Il faut tuer, abattre un Européen. C'est dans cette préface. Et Frantz Fanon, qui est sur son lit de mort, qui est très malade, qui va mourir très peu de temps après, quand il voit cette préface, il est complètement interloqué. Mais il y a des témoignages nombreux, à commencer par la psychanalyste Alice Cherki, qui était très amie avec lui. Et il dit, je veux répondre, parce que son livre, il a le sentiment qu'il est dévoyé, détourné vers la violence. Lui, il veut pas de cette violence. Et vous avez quand même, dans cette époque-là, même si il y a eu évidemment pas une mort par rapport à ce qui s'est passé avec l'extrême gauche en Italie et en Allemagne, vous avez aussi ce maoïsme derrière. C'est un gauchisme violent. C'est-à-dire, il prêche la violence. Et d'ailleurs, après, vous aurez d'ailleurs le phénomène Action Directe, avec lequel, d'ailleurs, la gauche parlementaire et socialiste a été très complaisante, contrairement à ce qui se passait, je le répète, en Allemagne ou en Italie.
Maxime Tandonnet.
Oui, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il est devenu, ce gauchisme? Est-ce qu'il a complètement disparu? Ou est-ce qu'il existe encore dans les esprits, bien que beaucoup moins violent, parce que la société actuelle est sans doute moins violente sur ce plan-là, en tout cas. Mais moi, je me demande si ce gauchisme, il n'existe pas toujours dans certains esprits. Quand on voit cette dame-là, je ne me rappelle jamais de son nom, qui a une haine absolue des hommes, qui interdit l'interdiction de certaines personnalités de parler parce qu'elles sont contre la PMA ou des choses comme ça. On a quand même, ou même sur les questions migratoires, l'attitude de certaines personnes qui veulent à tout prix forcer les frontières, laisser rentrer tout le monde sans le moindre contrôle, ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Tout ça, est-ce que c'est pas le gauchisme qui revit sous certaines manières? C'est-à-dire toujours une volonté de faire la table rase de la société, de changer complètement les choses, par d'autres moyens qui sont peut-être moins spectaculaires que l'appel au meurtre. Mais quand même, c'est une volonté quand même de faire table rase et de transformer complètement la société par d'autres moyens.
Alors, la phrase de Sartre dans la préface des Damnés de la Terre, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups,
oui,
supprimer un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Voilà, en effet. Sartre est allé très loin, il est allé très loin aussi en 68 et après 68, mais je dois dire, François-Olivier Gisbert, que je vous trouve d'une sévérité avec lui, peut-être elle-même un peu trop radicale. Vous dites qu'il faisait partie des éclopés bilieux et souffreteux, vous dites je le hais, vous dites que son œuvre...
C'est vrai qu'à l'époque, je le haïssais, c'est-à-dire j'étais sans doute déjà une fibre social-démocrate, mais quand je voyais au Nouvel Observateur, il était accueilli, il y avait toute une cour, je trouvais ce personnage affreux, parce que je lisais ses textes, qui étaient quand même... Et puis, il faut pas oublier qu'il avait chanté, il chantait toujours, d'ailleurs, les louanges de la Chine maoïste. Il avait été longtemps compagnon de route de l'Union soviétique. Pourquoi, d'ailleurs? Parce que, simplement, il n'avait pas pendant l'occupation, il n'a pas été très brillant, parce qu'on parlait toujours vous parliez tout à l'heure de Pompidou. Franchement, la résistance de Sartre n'a existé que dans son imagination. Ses pièces étaient jouées pendant l'occupation. Elles étaient jouées, d'ailleurs, la Wehrmacht, les officiers de la Wehrmacht venaient assister. Ça passait très bien dans le comité de censure. Les mouches s'est très bien passé. Puis après, on buvait du champagne, quoi, comme pour Sacha Guitry. Sauf que Sacha Guitry a payé, et parce qu'il s'est pas tout de suite mis à l'extrême gauche, comme l'a fait Sartre. Sartre est tout de suite à rallier l'extrême gauche pour être un peu protégé par le Parti communiste. Et d'ailleurs, bizarrement, il était dans le comité d'épuration. Enfin, c'était certainement une des personnes les plus mal placées pour figurer dans le comité d'épuration. Donc, c'est cette fausse morale, cette moraline, comme dire, on n'en pouvait déjà plus à l'époque. Et il en avait plein la bouche.
Alors, attendez, quand même. Mais vous dites que même son œuvre dramaturge n'a aucun intérêt. Je pense que Séquestré d'Altonard reste une belle pièce. Ouais. Et puis surtout, L'être et le néant a été, c'est vrai, publié en 1942. Mais il y a des descriptions phénoménologiques dans L'être et le néant qui sont lumineuses et profondes. Je pense que Sartre a été, et dans L'idiot de la famille aussi, un grand explorateur de l'existence. Donc on ne peut pas le réduire à ses prises de position. Vous êtes plus indulgent avec Foucault, qui lui-même, dans un entretien avec Benny Lévy, est allé jusqu'à remettre en cause la forme du tribunal révolutionnaire pour une justice révolutionnaire plus active, plus immédiate, en donnant en exemple les massacres de septembre. Mais je ne voudrais pas réduire Foucault à cela. C'est très intéressant, si vous voulez, parce que ces intellectuels avaient une très grande autorité. Or, en fait, ils étaient suivistes, c'est-à-dire ils étaient pris dans un vertige de la radicalité qui avait lui-même quelque chose de grégaire. Ils voulaient être les meilleurs élèves de la révolution en marche. Et donc ils sont allés l'un et l'autre, Foucault comme Sartre, beaucoup trop loin. Mais vouloir les réduire à cela, c'est un peu dommage. Première remarque. Deuxième remarque, et j'en aurai très vite fini. Ce qui est intéressant en France, et notamment parmi les maoïstes français, c'est qu'ils rêvaient de lutte armée. Le pouvoir est au bout du fusil, la guerre civile, etc.
C'était dans tous les livres.
Mais qu'ils se sont retenus. Et Olivier Rollin le montre très bien. Et le moment, d'ailleurs, le plus important a été le massacre de Munich, l'attentat contre les athlètes israéliens. C'est un communiqué de la gauche prolétarienne. Le principe fondamental de n'importe quelle forme de guérilla est de ne s'attaquer qu'aux ennemis directs du peuple. Or, tous les gens vivant à Israël sont-ils les ennemis directs des peuples? Ils ne l'ont pas pensé. La gauche prolétarienne, un an après, était dissoute. Et le seul, si vous voulez, qui soit allé jusqu'à soutenir Septembre Noir, dans Rouge, c'est le trotskiste Edoui Plenel. L'action de Septembre Noir a fait éclater la mascarade olympique, a bouleversé les arrangements à l'amiable que les réactionnaires arabes s'apprêtaient à conclure avec Israël sur le dos du peuple palestinien. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de Septembre Noir.
Enfin, Sartre a tenu des propos semblables. Hein.
Oui, un peu. Oublié, hein. C'est vrai. Ah, ouais. Mais disons que ce qui frappe aujourd'hui, c'est la retenue du gauchisme français. Il vivait dans une réalité parallèle, dans un fantasme de guerre, mais l'objection à une prise d'armes, comme dit Olivier Rollin, a été plus forte puisqu'elle a empêché la prise d'armes.
Ce qui a joué un rôle très important, parce que vous parlez d'Olivier Rollin, justement, c'est ce courant des établis. Parce qu'effectivement, ils allaient dans les usines, ils travaillaient, et donc ils n'étaient pas dans une radicalité comme par exemple la faction armée rouge en Allemagne, qui ne pensait qu'à tuer, à massacrer, même chose avec les brigades rouges. Il y a un esprit différent. Mais du côté des intellectuels, je suis désolé, parce que moi je suis toujours frappé, on me pose la question l'autre jour, mais qui sont les grands intellectuels aujourd'hui? J'ai pas trouvé tout de suite la réponse. Enfin, c'est évident, il y en a partout. On a plein de grands intellectuels en France. Mais oui, mais quand vous comparez, excusez-moi, Sartre, Foucault, Solers, Althusser, etc., ils faisaient l'éloge de régimes abjects. Et on le savait, parce qu'excusez-moi, sur Mao, il suffit de lire le petit livre rouge avec tous ces anathèmes contre cette vermine qu'il faut éradiquer. On voit très bien que c'est un régime très violent. Enfin, puis de toute façon, on le savait aussi, il y avait des livres qui sortaient, qui vous expliquaient ce qui se passait. Et tous ces intellectuels ont fait les mêmes erreurs que les intellectuels des années 30, quand on leur disait la vérité sur l'Union soviétique. Donc, pour moi, ils sont... et j'avais cette colère déjà quand j'étais jeune. Je ne pouvais pas... Enfin, c'est vrai que j'ai une complaisance pour Foucault à cause de quelques livres qui m'ont marqué, qui m'ont touché, ce qui n'est pas votre cas, c'est vrai. Par rapport à Sartre, moi, rien ne m'a touché à part les mots que j'ai trouvé. C'est effectivement un très beau livre. L'idiot de la famille, j'ai pas pu parce que cette espèce de décortiquage de haine sur Flaubert, non, c'était trop pour moi, je ne pouvais pas. Et voilà, donc j'ai pas votre... Il ne me fascine pas. Et si vous voulez, moi, des grands intellectuels, vous savez pourquoi il y a encore des grands intellectuels en France? Mais c'est parce qu'on dit qu'il n'y en a plus, parce qu'ils n'appellent pas au meurtre. Je crois que l'inconscient collectif de beaucoup de gens, notamment dans les médias, un intellectuel, c'est quelqu'un qui appelle au meurtre. Ce que faisait Sartre dans ses grands entretiens du Nouvel Observateur, qui s'arrachait. Pourquoi il faisait souvent la une? C'est parce que ça vendait très très bien. Les journaux, ils vivent aussi comme ça. Et ils détestaient Jean Daniel, d'ailleurs, parce que c'était des esprits... ils ne pouvaient pas s'entendre avec Jean Daniel, et Jean Daniel le lui rendait bien. Mais bon, il était publié régulièrement parce qu'il y avait des lecteurs pour ça.
Il y avait aussi quand même l'entretien avec Benny Lévy à la fin.
Ah oui, bien sûr, c'était bien.
Mais l'espoir maintenant.
Benny Lévy a peut-être joué un rôle aussi dans
oui,
ce qu'il dit. Hein,
il prend ses distances avec la radicalité. Oui, mais... Il dit en même temps qu'il ne veut pas mourir désespéré, bien qu'il se sache proche de la mort. Et donc, il a imposé la publication de cet entretien contre les sartriens officiels. Il l'a imposé à Jean Daniel. Non, mais je voulais dire cela simplement parce que j'essaye de prendre les intellectuels à leur meilleur. J'aime notamment, j'ai connu Foucault et j'avais beaucoup d'affection pour lui, mais j'aime aussi l'évolution de son œuvre. Il pensait tout en termes de pouvoir à un moment. Ouais. Et puis... il s'est dépris de lui-même, je reprends cette expression, et il a fini par une réflexion, une histoire de l'éthique, de la subjectivation. Donc on a l'impression qu'il a voulu échapper a son propre système. Mais enfin bon, venons-en maintenant aux années qui ont suivi. Il y a eu Pompidou, il y a eu évidemment l'agonie en direct de Pompidou. Vous avez cette phrase très juste, François-Louis Gisbert, quand on le regarde, on l'ausculte. C'était comme ça que je vivais les choses moi-même. C'était vraiment pathétique parce que son visage ne cessait d'enfler. Bon,
et puis il mentait lui-même. Enfin, il se racontait des histoires parce qu'il devait sentir dans son corps, mais il racontait, par exemple, à Focard, peu de temps avant de mourir, c'était des histoires d'hémorroïdes. J'ai des gros problèmes d'hémorroïdes. Enfin bon, et tout ça. Enfin, et nous tous, on savait qu'il allait bientôt mourir. C'était pas possible de gonfler à ce point, d'avoir du mal à se déplacer. Enfin bon, on savait qu'il y avait quelque chose de grave, quoi.
Giscard d'Estaing est élu. La candidature de Chamandelmas s'écroule. Vous parlez de cet entretien à la télévision où il est avec
Malraux,
bourré de tic. Enfin, je me souviens aussi de cette allocution.
Et si on a la télé en couleur, on voit que Chaban est jaune.
Oui, extrêmement triste. Donc Giscard est élu. Que penser aussi des années giscardiennes, Maxime?
Alors, moi, je pense que c'est vraiment une période de transition, en fait, l'élection de Giscard d'Estaing, parce que c'est une période où la société française change assez profondément. C'est le début de l'explosion du chômage, dont on ne s'est jamais remis. Quand on regarde les statistiques également sur la délinquance, on s'aperçoit que c'est une période où les violences aux personnes commencent. Elles n'ont jamais cessé, depuis 1974, elles n'ont jamais cessé d'augmenter. C'est autour de 2% par an, selon les périodes, 1 ou 2%. Mais on rentre dans une période de fracture, où la société française se fracture par le chômage, par l'économie, par le déclin économique, par la montée de la délinquance, par la montée du multiculturalisme. C'est le début de toute cette période. Et je crois que Giscard d'Estaing fait l'apprentissage de l'impuissance politique. C'est-à-dire qu'il a pour objectif de réduire le chômage, de maintenir une société française heureuse, et il n'y parvient pas. Le chômage continue à augmenter. C'est la grande obsession de l'époque, hein. 1 million de chômeurs en 1976. On n'avait jamais dépassé 40 000, 50 000. On sort d'une période de plein emploi. On sort des 30 glorieuses. Et donc, c'est très difficile à vivre. Et c'est pour ça qu'à mon avis, la politique verse dans la communication. C'est-à-dire que pour compenser ces échecs, pour compenser cette impossibilité de préserver une société heureuse dont on parlait tout à l'heure, la communication prend une ampleur énorme. Alors on voit Giscard d'Estaing, comme le raconte France dans son livre, qui reçoit des éboueurs maliens, bon, qui s'invite à des dîners avec les Français. Ça, c'est tout
une
à fait
communication
nouveau.
Qui se retourne contre lui.
Une communication qui se retourne complètement. C'est l'entrée de la politique dans l'ère de la grande communication, mais ça ne marche pas bien parce que c'est vécu comme une opération très artificielle. Et finalement, il avait de bonnes intentions, je pense. C'était pas du tout. C'est pas du tout une forme de mépris ou autre, pas du tout. Il voulait vraiment parler avec les Français. Ça, c'est quelque chose qui le motivait. Mais le résultat a été catastrophique. Giscard d'Estaing, il n'a pas été tellement battu pour sa politique. Il a été battu pour sa communication.
Oui, sur l'affaire des diamants.
Ah oui,
bien sûr.
Mais l'affaire des diamants.
Mais moi, je suis absolument d'accord avec ce que nous a dit Maxime. J'ai rien à rajouter, sauf un point. C'est que, parce que ça, il faut en parler, c'est que les années 70, à partir de 1973, et ensuite vous avez un nouveau choc pétrolier en 1979, donc vous avez deux chocs pétroliers extrêmement violents, et qui vont complètement déstabiliser l'économie française. Là-dessus, Giscard va pas perdre de temps. Hein. Tout de suite, il y a d'abord Pierre Messmer, qui est le premier ministre de Pompidou, qui va lancer la construction de plusieurs centrales nucléaires. Giscard, quand il arrive au pouvoir, en rajoute. Ça va monter à 45 centrales nucléaires. Ils essayent de régler vite le problème. Il prend des décisions, il tranche, il fait... je dirais aussi une chose, c'est que dès qu'il arrive au pouvoir en 1974, malgré le choc pétrolier, il trouve quand même le moyen de changer vite une partie de la société avec des mesures, enfin des réformes sociétales
très importantes.
Bien
c'est
sûr.
Le divorce par consentement mutuel et l'interruption volontaire
du
process.
Tout ça est quand même très important. Il le fait d'ailleurs contre une grande partie de sa propre majorité. Hein, faut pas oublier que l'avortement ça a été voté par la gauche et d'ailleurs par la gauche et bizarrement aussi par les centristes parce que Le Canuet, qui était le patron des centristes à l'époque, Chrétien, avait fait un travail comme ça à l'intérieur pour faire voter ses propres troupes. Alors, le gros problème, c'était les Giscardiens et les Chiraquiens à l'époque.
Alors, les centristes, voilà. C'était quand même la démocratie chrétienne.
Oui, c'est ça, justement. Ça. Ils auraient dû être les plus hostiles, mais enfin, ils ont, c'est toujours, quand on regarde les chiffres, c'est très intéressant. Comme quoi, vous voyez, il suffit de deux, trois personnes pour changer les choses. Mais, donc, moi, ce qui me fascine, si vous voulez, dans cette période, c'est que tout en faisant, parce que moi, je suis d'accord avec cette analyse de Maxime, c'est exactement ça. C'est le début de la fin, c'est le début de tous les ennuis qui vont arriver. Mais en même temps, vous avez encore, parce que même si Giscard se perd dans la com, il prend des décisions, il préside, alors que ses premiers ministres gouvernent, c'est-à-dire il laisse Chirac gouverner, on le sait très bien.
Et surtout Barre.
Il laisse Barre. Alors là, Barre prend carrément le pouvoir. Il est vraiment, il s'est calqué dans les pas du général de Gaulle. Et à l'arrivée, c'est ça qui est important, après ces chocs pétroliers, vous n'avez pratiquement pas d'endettement. Enfin, l'endettement est toujours à 20% du PIB, c'est-à-dire c'est vraiment plus que bas. Et puis, il n'y a pas de déficit, c'est-à-dire ils ont bien géré. Non, non, faut jamais oublier ça. Ils ont bien géré malgré les catastrophes. Et excusez-moi, juste, j'en termine, les deux chocs pétroliers, c'était pas de la roupie de Sansonnet à côté du Covid. C'était bien plus important. Enfin, c'était déstructurant. C'était pas la crise de l'énergie qu'on vit aujourd'hui. C'était d'une violence extrême.
Une violence extrême, oui. Alors, pour le temps qui nous reste, vous avez dit, Maxime Tandonnet, que la politique de communication de Giscard s'est retournée contre lui. Lorsqu'il est sorti d'Élysée, il a été hué par une foule qui était là. Il n'était pas très populaire. Et l'affaire des diamants...
Jamais oublié, battu de justesse.
Battu de justesse, quand même. Vous avez raison. Battu de justesse, mais l'affaire des diamants a joué un rôle. J'aimerais qu'on revienne quelques minutes sur cette affaire des diamants. Que s'est-il réellement passé, Maxime Tandonnet?
Eh bien, vous savez, c'est à l'origine de l'affaire des diamants, il y a l'intervention de la France en Afrique, au Centrafrique. Je crois que ça se situait en 1978, hein, le dictateur du Centrafrique, Bokassa, qui devient complètement fou, qui se fait proclamer empereur, qui massacre des lycéens. Et la France a une responsabilité vis-à-vis du Centrafrique, ancienne colonie. Giscard d'Estaing fait intervenir l'armée. Et à un moment où Bokassa était à l'extérieur, d'ailleurs, je crois qu'il était en visite en Libye ou quelque chose comme ça, et Bokassa est renversé sans qu'une seule goutte de sang soit versée. Donc une belle opération, une belle intervention militaire bien réussie. Et quelques années plus tard, Bokassa s'est vengé en racontant, je sais plus exactement dans quel terme, je crois que c'est au Canard Enchaîné, mais en racontant qu'il avait offert à Giscard des diamants. Cette affaire qui était rien du tout au départ, c'était quelques diamants qui avaient été, quelques pierres qui avaient été remises en tant que cadeau à la suite d'un voyage, comme ça se fait toujours.
À des copines.
Oui, à des copines. Ça. C'était rien du tout. Et ça a pris une ampleur considérable. Le Canard Enchaîné en a fait sa une. Le Monde, alors que Le Monde a repris l'information. Et à partir de là, il y a eu un véritable lynchage de Giscard d'Estaing qui s'est produit dans toute l'intelligentsia. Giscard était assimilé aux diamants. Et son image a été extrêmement ternie par cette affaire scandaleuse et oui. Qui n'avait aucun fondement. Et je rajoute, quand vous disiez que Giscard était impopulaire, il n'a pas toujours été impopulaire. Il a été populaire au début, dans les premières années, justement, quand il a fait ses réformes. France,
même auprès du journal Le Monde.
Aujourd'hui, on dit qu'un président est populaire avec 25% de, avec une cote de 25%. Mais à l'époque, c'était sa cote, elle était de 60 à 70%. Et elle s'est effondrée à la fin, en partie, à cause de cette affaire des diamants.
Justement. Et ça a conduit, d'ailleurs, Le Monde à célébrer la victoire de Mitterrand en disant que c'était la victoire de la morale sur le cynisme, etc. Ce qui est tout de même assez étrange pour Mitterrand.
L'affaire montait de toutes pièces, en fait.
Et surtout, Giscard n'a jamais répondu. Il n'a jamais parlé. Justement, lui qui faisait de la com tout le temps, il n'a pas pensé que ce serait bien de faire comme l'ont fait certains présidents américains, d'ailleurs, vous vous souvenez, qui ont un peu retourné l'opinion. Je pense notamment à ce qu'a fait Clinton. Parce que Clinton, il a quand même juré sur la Bible qu'il n'avait jamais eu de relation avec Monica Lewinsky. C'est un énorme mensonge. Enfin, et vous savez que la démocratie américaine déteste le mensonge. Bon, bah, il a retourné l'opinion. D'ailleurs, il a gagné les dernières élections de midterms grâce à ça, parce qu'il a... Il a su communiquer. Lui, il n'a pas voulu. Il n'a jamais parlé. C'est quand même cette histoire-là.
Bah, il pensait que c'était.
Il pensait que c'est pas de son niveau. C'est ce qu'il disait d'ailleurs. Il disait c'est pas de mon niveau. Mais oui, c'était de son niveau parce que la politique, c'est de répondre à ce genre de questions, bien sûr.
Oui, mais d'un autre côté, la politique, de la part de la presse, ça ne devrait pas être de lancer cette histoire et de la transformer en affaire du siècle, me semble-t-il, Maxime Tandonnet.
Oui, je crois que c'est tout le problème de la politique qui repose dans l'image, en fait. Hein. La politique aujourd'hui, c'est beaucoup plus une affaire d'image que de réalisation concrète. Et cette image, elle est forcément fragile. On peut la sublimer de manière assez facile, et puis on peut aussi la détruire complètement. Donc, l'homme politique qui existe par l'image, il est forcément fragile. Pour moi, c'est une évidence.
Et c'était déjà vrai sous Giscard, et vous pensez que ça s'est aggravé depuis ?
Ah oui, complètement. Je pense que maintenant, la politique, c'est un vaste spectacle, une grande illusion, et qui repose sur de l'image et qui repose sur de la communication. Donc forcément, très fragile. Ce qui est encensé à un moment, il peut s'effondrer à un autre de manière très rapide.
Ouais, vous êtes d'accord avec ça, François Gilbert,
pour
finir ? La
désacralisation du président, et ça, je pense, bon, c'est pas la seule raison, mais je pense que le quinquennat a joué un rôle. Cette réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans a fait qu'on est dans une situation un peu à l'américaine où, dès que le président est élu, on pense déjà à la succession. Et puis, voilà, tout est le temps rapide. Et De Gaulle avait eu cette idée géniale d'avoir un président qui, il appelait ça un peu, joue le rôle de la reine d'Angleterre. Vous voyez, qui soit un petit peu au-dessus, pendant que le premier ministre gouvernait. Et bon, on n'a plus ce système aujourd'hui en France.
En vous écoutant, je pense à cette phrase de René Char, « Supprimer l'éloignement tue ». Voilà sans doute où nous en sommes. En tout cas, merci à vous deux. Alors, je rappelle, François-Olivier Gisbert, que vous publiez chez Gallimard le deuxième tome de votre histoire intime de la Ve République, La Belle Époque. Il y en aura combien d'autres ?
Ah, il y a encore un seul tome. Parce que les 40 années qui suivent, de Mitterrand à Macron, ça vaut pas plus qu'un seul tome. C'est 40 années, et ce sera pas triste, parce que j'ai commencé.
Vous avez déjà beaucoup écrit dessus, en plus.
Oui, oui.
Oui, il travaille vite.
Non. C'est un travail de chien. Non, mais c'est un travail de chien. Non. Vous rendez pas compte. Hein,
c'est
une nuit blanche.
Dieu sait. Oh là. Maxime Tandonnet, j'ai cité votre histoire des présidents de la République, publiée chez Perrin, et vous avez publié plus récemment chez Perrin, Georges Bidault,
formidable,
de la résistance à l'Algérie française.
Ça se lit comme un roman, c'est formidable. C'est la chute d'un homme. Génial. Et moi, j'ai lu ce livre vraiment avec un grand plaisir.
Bon, bah parfait. Alors, je dirais, pour finir, que l'émission de la semaine prochaine aura pour titre l'œuvre d'Annie Ernaux. Mes invités seront Raphaël Léris et Pierre Assouline. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Romain Lukens. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.